L'Enum, l'update, l'essentiel de la tech. Sur place ou à emporter.
La technologie avance, on vous aide à la rattraper. Bonjour ou bonsoir, c'est Julien et pendant les vacances, j'ai choisi de faire une pause sur l'ActuTech et de recevoir une partie de l'équipe des numériques, à commencer par Marie, notre rédactrice en chef. Technology. Cette semaine, ça fait très très bizarre de l'interviewer, de lui poser des questions. Habituellement, c'est l'inverse. Je suis avec Marie Siolfi, comment ça va ?
Salut Julien, salut tout le monde, ça va ? J'ai un petit peu la pression, bizarrement.
Non, tu vas voir, ça va très très bien se passer. En plus, là, c'est les vacances, on est chill. Si je devais te présenter en une phrase, Marie, qu'est-ce que je devrais dire ?
Waouh ! Mais tu m'as pas préparé à toutes ces questions, Julien.
Non, c'est que la première.
Tu devrais dire que je suis, j'ai pas la prétention d'être la seule, mais l'une des figures féminines de cette rédaction, que je suis actuellement la rédactrice en chef, mais que j'ai aussi pas mal de casquettes et j'espère celle de happiness manager au sein de cette rédaction.
Directrice du BDE, comme on dit. Je trouve que c'est plutôt juste.
T'en penses quoi ?
Ça y est, je valide. Comment t'arrives au numérique et plus particulièrement à la rubrique maison ?
Alors, avant d'arriver au NUM, j'étais dans un petit magazine papier qui s'appelait Mobile Magazine. Donc, j'ai fini rédactrice en chef adjointe de Mobile Magazine. Donc, c'était le premier magazine papier sur les mobiles.
Wow !
Voilà. Et donc, on faisait essentiellement des tests de smartphones et de tablettes et de montres connectées. Et donc, j'ai fait 6 ans là-bas. Et un jour, j'ai un appel du chef de service téléphonique. Ça reste un petit milieu, la tech. Ouais. Donc, l'ex-chef de service téléphonique qui me dit « Est-ce que tu n'as pas envie de rejoindre l'ENUM ?» Je dis « Bah ouais, pourquoi pas ?» Après, le niveau d'exigence d'ENUM était quand même beaucoup plus élevé que celui qu'on me demandait pour Mobile Magazine.
Déjà, à ce moment-là, il y avait une image des numériques qui était, attention,
ouais, c'est… Tout de suite, le laboratoire, voilà, l'objectivité. Moi, c'était un peu plus lifestyle ce que je faisais, donc c'était vraiment mon ressenti. J'étais un petit peu impressionnée en fait, par la puissance du média, hein, sans vouloir… forcément mettre les numériques sur un piédestal, mais moi, je démarrais un petit peu dans ce milieu-là, donc j'étais un petit peu, voilà, j'avais un peu des étoiles dans les yeux, sans mauvais jeu de mots. Mais en fait, il me dit, bon, par contre, c'est pour la rubrique maison. Donc là, soyons très honnêtes, je me dis, ah, bon, moi, je voulais quand même accéder au smartphone. Pour moi, c'est la rubrique principale qui porte les numériques et encore aujourd'hui. Donc, je me suis dit, ah bon, en fait, OK, on me propose la maison. La maison voulait dire essentiellement la partie maison connectée. J'arrivais pour m'occuper voilà, de cette partie-là. Donc, on parlait beaucoup de domotique en 2016. Donc, les ampoules, les caméras, voilà, tous les systèmes de sécurité connectés. J'ai trouvé que c'était sympa, mais pour être tout à fait honnête, je me suis dit, je vais rentrer par la petite porte, mais c'est pas grave, je vais faire mon trou et puis je vais accéder petit à petit voilà, à la rubrique téléphonie. C'était vraiment mon objectif. Je sais pas à quel point je dois être honnête dans le podcast.
Mais si, là, complètement, il faut l'être.
Voilà. Et en fait, du coup, bon, on commence à me dire, bon, il n'y aura pas finalement que des produits connectés, donc je rejoins l'équipe, hein. On va me dire, il n'y aura finalement pas que des produits connectés, tu vas faire un peu l'électroménager. Et là, à l'intérieur, je me disais, oh là là, la boring. J'avais pas du tout envie, j'étais à l'aube de mes 30 ans, est-ce que vraiment j'ai envie de tester des aspirateurs ? Je ne crois pas. Mais bon, j'ai pas le choix, j'y vais, je mets les mains dans la poussière. Et là, en fait, je me rends compte de l'infinité de produits. Je me rends compte que c'est des produits du quotidien. En plus, il y a un côté hyper ludique à tester, un aspirateur, une machine à café, un robot cuiseur. Et voilà, c'est des produits de monsieur et madame tout le monde. Tout le monde a ça chez soi, tout le monde connaît très bien. Et bah, du coup, bah, j'ai kiffé, en fait. Enfin, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une diversité des produits. Il y avait aussi beaucoup de techno et de plus en plus dans ces produits-là. On a vu ensuite l'essor des robots cuiseurs à l'époque, des aspirateurs robots. Il y avait quand même de la tech dans ces produits. Et en fait, il y a une telle diversité de contenus, de richesse de produits. Je n'ai pas ressenti la lassitude que je pouvais un petit peu ressentir sur le smartphone parce qu'il n'y avait plus d'innovation majeure sur le smartphone en 2016.
Oh, là, on est en 2016. Oui, mais là, c'est cyclique. Là, on a droit aussi à un petit moment de
flottement. Tout à fait. Donc voilà. Et donc, j'ai pris le. Voilà, j'ai eu l'occasion de monter un petit peu les échelons. Je suis passée chef de service maison. Et ensuite, je suis passée rédactrice en chef adjointe. Et là, dernièrement, voilà, nouveau statut, un nouveau défi.
Si jeune et déjà des années d'expérience.
Oh là, merci, c'est gentil.
Si tu avais un super pouvoir de journaliste en test, ce serait quoi ?
Je pense que mon super pouvoir, c'est mon. Ça va être très bateau, donc je regrette un peu de dire ça, mais ma curiosité. Dans le sens où, bah, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je suis venue pour un objectif qui était celui des téléphones. On m'a mis un aspirateur, j'ai trouvé ça sympa. Aujourd'hui encore, malgré les responsabilités et la tonne de réunions que j'ai sur la semaine, j'adore aller au labo, quitte à tester un sèche-linge, par exemple, ouais. qui est un produit vraiment pas hyper sexy, on va dire, à tester. Ça m'éclate. En fait, ça, ce qu'il y a, c'est que je trouve de l'amusement.
C'est important de ne pas être blasé.
Ouais, exactement. Et puis, en fait, je me dis, bon, OK, a priori, j'aime pas ce produit, mais je vais quand même le découper et regarder dans les entrailles et voir ce qu'il a d'intéressant à proposer. J'avais proposé d'ailleurs à Laure, qui est la chef de service téléphonique, un jour ou une semaine, voire un mois, on échange un peu nos vies. Parce que j'ai très envie de m'essayer à la procédure de test des smartphones, qui m'a l'air redoutable. Ouais. Et je me dis, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai jamais touché un smartphone. Non, enfin, je ne l'ai pas emmené au labo photo, je n'ai pas testé l'écran ou Visor, mais qui a l'air d'être un gros sujet en soi sur le numérique. Et en fait, ça, quelque part, je le regrette un peu, mais il y a une telle diversité de produits qu'on teste sur les numériques. Je me suis cantonnée qu'à la maison, qui a déjà beaucoup de produits. Mais en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment pouvoir me dire que j'ai touché à tous les produits. Donc, je pense que je me sens excitée en fait par tout ce qu'on pourrait tester sur les numériques. J'ai pas de barrière, quoi.
Et à contrario, ton talon d'Achille ?
Oh, c'est une bonne question, Julien. Oh là là.
J'essaye quand même.
Ah, mais tu m'as pas briefé, hein.
Bah, c'est le but.
Mon talon d'Achille, je pense aussi que je peux être un peu fermée. À savoir, par exemple, typiquement, la photo, je me dis, c'est pas pour moi, je vais rien comprendre. Mmh. Et du coup, je me ferme, je me braque, je me bloque. Mmh. Voilà, il y a ça et l'audio aussi, parce qu'en fait, c'est un tel niveau de technicité. D'accord. Et en fait, c'est comme c'est pas des produits que je manipule au quotidien. Mmh. Typiquement, en photo, je ne comprends rien. Je pense que je pourrais me braquer, tu vois, parce que je me dis, bon, c'est pas accessible pour moi. Je me fais pas assez confiance sur certaines choses. Mais parce que c'est pas des produits de mon quotidien.
Oui.
Donc, voilà.
C'est un excès d'humilité, c'est bien aussi.
Ouais, oui, mais en même temps, je me bloque. Je me dis, ouais, non, c'est pas pour moi, je vais rien comprendre de toute façon, donc j'y vais même pas. Je vais pas essayer. Il y a quelque chose un peu limitant.
Je vois ce que tu veux dire. Voilà. S'il y avait un mythe sur notre métier que tu aimerais démonter ?
Ah, ben, qu'on est acheté par les marques.
Voilà.
Vraiment. Ça, c'est quelque chose qui peut me fumer quand je dis ça dans les commentaires. Et même d'ailleurs, quand je parle du média dans mon entourage personnel et qu'on me demande, mais vraiment, vous êtes vraiment pas acheté, à quel point ? Et c'est vrai, on est vraiment. Objectif au possible, quoi. Il y a une impartialité, c'est pour ça que j'aime les numériques, vraiment très fort. Je n'ai pas la prétention de dire ça se passe différemment ailleurs, je ne connais pas et j'ai pas beaucoup d'expérience.
Faut dire que certaines marques nous redoutent un peu.
Ouais, complètement. Mais alors, le poids du média me fait très peur. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, du coup, on a ouvert le comparatif des caméras de surveillance. Et là, donc, je commence à tester plein de marques, parmi les plus grandes, à la base Netgear avec la gamme Arlo, Netatmo aussi, qui faisait partie un peu des grosses marques du milieu. Et un jour, il y a une marque, une petite start-up française, qui me demande, est-ce que vous pouvez tester notre produit ? Je dis, oui, super, vous avez l'air d'avoir un prix sympa. C'était une petite caméra qui ne payait pas de mine, mais pas très cher non plus. Donc, pourquoi pas une alternative intéressante. Et là, ce produit prend 2 étoiles. Et là, moi, j'ai au téléphone, du coup, le fondateur de la start-up qui me dit, écoutez, il va falloir que vous... Je vais vous demander, je vais vous supplier. Il m'a supplié de dépublier parce que en fait, on a été déréférencés de chez Darty et la Fnac à cause de votre test. Parce qu'ils ont vu votre test et ils ont dit non, on ne va pas vous mettre en rayon à la Fnac et chez Darty. Et donc là, madame, vous mettez 30 personnes au chômage. Et là, moi, j'ai compris, c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris l'impact du média. Mmh. Et il faut être hyper solide. Il faut être hyper solide, il faut être sûr de ses valeurs, sûr de ses chiffres. Sûr de ce qu'on écrit, parce qu'en fait, on a un pouvoir auprès des lecteurs, clairement, et du consommateur, mais aussi auprès des marques. Quelque part, à ce moment-là, j'ai senti qu'on avait un droit de vie ou de mort sur une entreprise française, parce qu'il a joué cette corde-là. On est une petite start-up française, vous nous comparez à des Netgear. Oui, mais en fait, c'est l'eau. J'avais demandé à ma rédactrice en chef de l'époque, est-ce qu'on ne peut pas dépublier, parce que vraiment, je suis très gênée. Elle m'avait dit non, pas du tout, on ne peut pas. Et elle a eu raison. Elle a eu raison. J'ai trouvé que la sentence, elle était dure. Ouais. Elle dit, on fait ça dans l'intérêt des lecteurs. Et elle a complètement raison. Mais sur le moment, j'ai trouvé que c'était dur, en fait. Voilà. Mais c'est un poids.
Et c'est ce qui fait que notre notation est si importante pour les marques aussi.
Oui, complètement. Oui,
parce
bah,
que
complètement.
Dans un sens comme dans l'autre,
ça va,
ils sont tout aussi contents d'avoir un 4 ou un 5 étoiles qu'ils peuvent être déçus d'avoir
ça
un 2 ou un 3.
Clairement orienter les ventes de leurs produits sur notre notation. Donc, on a un vrai devoir d'exemplarité, de justesse, de précision. Et vraiment, toute la rédaction s'y implique. Et vraiment, on est les plus objectifs possibles. Aucune marque... Mais je le certifie sur l'honneur, aucune marque n'a jamais payé pour une étoile supplémentaire. Oui, on a eu des propositions, évidemment. Mais non, ça n'est jamais arrivé. Tout du moins, ça fait 10 ans que je suis là. Et ça n'est jamais arrivé.
Alors ça, malheureusement, les journalistes qui sont achetés, c'est depuis toujours. En fait, le vrai souci, le nœud du problème, c'est qu'avec l'émergence de l'influence, on peut se dire que la frontière entre journaliste et influenceur est super mince.
Bien
alors
sûr.
Que ce n'est pas le cas du tout.
Non, mais
c'est et on aurait un train de vie tellement différent.
Mais ah oui, c'est clair. Parfois, je me demande pourquoi on n'est pas allé là-dedans, parce que déjà la vie a l'air plus simple. Mais c'est dur quand même, Julien. Tu vois, c'est parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivée, je parle vraiment là. Je suis arrivée chez Mobile Magazine. J'avais 23 ans. Et quand j'arrive, je suis invitée par une marque japonaise. Je suis dans un hôtel.
Oui.
Mais incroyable. Jamais je n'ai pu, surtout à cette époque-là, m'offrir un tel niveau de luxe. Et sur le lit de cette chambre d'hôtel honteusement luxueuse, j'ai le téléphone en question qui, à l'époque, coûte mon salaire. On est sur 1300 euros, je crois, le téléphone. Et moi, je touche 1400 euros, disons, à l'époque, net. Je me dis, oh my God, enfin,
ouais.
Tu vois. Et honnêtement, la petite Marie de l'époque qui sort de sa petite banlieue et qui va voyager dans le monde, dans des hôtels de ouf, avec des téléphones de ouf dans les mains, je me demande dans quelle mesure, à un moment, ça n'a pas biaisé mon propos. Et ce que j'aime par-dessus tout au numérique, c'est qu'en fait, c'est le labo qui parle. C'est plus Marie Siolfi, c'est plus Julien Vercouter. C'est le labo. Et même si on peut avoir
après,
un
après, c'est
avis...
le relationnel que tu vas avoir avec les marques. C'est-à-dire que tu peux très bien les prévenir, si tu t'entends très bien avec eux, dire « Écoute, là, le produit que tu me donnes, c'est à tes risques et périls. Je pense, à vue de nez, qu'on ne va pas être sur du 4 étoiles. »
Ouais. Ça,
tu peux
sûr.
Aussi avoir cet avertissement
oui,
auprès d'eux pour déjà... Oui, voilà.
Voilà, ça, c'est l'expérience qui crée ça. Et puis, effectivement, plus tu es mature dans ce milieu-là, plus tu es à l'aise de dire ce qui va et ce qui ne va pas.
Ouais,
mais quand tu sors de l'œuf... c'est compliqué, on te met des étoiles dans les yeux, c'est compliqué. Mais voilà, après, effectivement, on peut avoir un avis, on peut noter un produit 3 étoiles et nous, personnellement, le trouver très bon parce qu'il répond à nos critères, parce qu'on reste des humains aussi derrière, il n'y a pas que le labo. Hein. D'ailleurs, c'est ça que je voudrais, que les NUM soient aussi plus incarnés et pas se détachent du labo, mais il y a le labo. Voilà, c'est factuel, c'est neutre, c'est objectif. Et puis, il y a l'avis de la rédaction avec les personnalités de chacun et les préférences de chacun.
C'est pour ça qu'à l'heure de l'IA, j'aime bien aussi de temps en temps recevoir des gens de l'équipe dans le podcast pour qu'on comprenne aussi que c'est incarné, qu'il y a bien des gens.
Ouais.
Et ce n'est pas des IA qui écrivent les tests.
Exactement.
D'ailleurs, pour parler des écrits, c'est là qu'on peut faire la différence entre la notation et ce que nous, on va écrire de notre impression personnelle. Et ça a transpiré aussi de l'expérience qu'on a eue du produit. C'est qu'on peut temporiser un peu. C'est-à-dire qu'un très bon produit, on peut aussi, à l'écrit,
exactement.
Y mettre des bémols.
Exactement.
Et un 3 étoiles, on peut aussi un petit peu le rehausser en disant qu'en fait, voilà,
exactement.
Ça peut trouver son public.
Ouais, tout à fait.
Maintenant, ça y est, rédactrice en chef. Je pense que voilà, calife à la place du calife, ça change quoi dans ta journée?
C'est plus de réunions.
Et on ne te voit plus, on va
ouais,
dire.
C'est quand même plus de réunions. C'est un nombre d'interlocuteurs multiplié par... je sais pas, on va dire par 3. Donc, c'est beaucoup de transverses, beaucoup. Mais c'est très intéressant parce que je découvre des métiers avec lesquels je n'avais pas l'habitude de travailler. Ça m'éloigne de l'opérationnel.
Ça ne te manque pas un peu déjà ?
Ça me manque beaucoup.
Pourtant, ça fait peu de temps.
Ça me manque beaucoup. On dirait une confession chez le psy. Ouais, ça me manque beaucoup parce que moi, c'est vrai que j'adore aller au labo et j'adore tester des trucs. Donc, c'est moins de temps dans l'opérationnel, dans la production. Mais après, c'est intéressant d'avoir... un troisième souffle au numérique. Je me sens très redevable par rapport au NUM parce que j'ai vécu plein de vies sur ce site et donc c'est intéressant. Mais maintenant on va parler à la rédaction en chef un peu plus de diversification, comment sur quel chantier on va en édito en 2026. On a quand même de gros choix à faire à l'heure de l'IA. Moi, là, comme ça, à chaud, j'ai envie de te dire que j'ai envie qu'on aille vers plus d'incarnation, qu'on soit un média peut-être moins... qu'on se cache moins derrière le labo, ce qu'on a beaucoup fait, et qu'on s'affiche, en fait. Mmh. Oui, il y a des gens au labo, c'est qui ces gens voilà. Et parce qu'on a tous un truc à dire, on est tous des experts dans notre milieu. On a de la chance d'avoir cette richesse dans l'équipe. Enfin, vraiment, ça me porte... parce qu'on n'a que des gens passionnés et des experts de terrain. Et je trouve qu'on s'est un peu caché derrière le labo. On a tous des trucs à raconter.
Et c'est un peu l'image, oui.
Donc voilà, j'aimerais une rédaction un peu plus incarnée aussi, ce qui va nous différencier de la froideur des IA, par exemple.
Et en dehors de ça, ta boussole pour 2026, c'est quoi? Si jamais tu avais un programme, un peu comme un programme électoral, sauf que tu as déjà été élu, c'est quoi le projet?
Ok, donc déjà, on a un gros chantier sur la notation qui va arriver en 2026, mais attention, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une note de 5 étoiles qui parfois peut être difficile à lire pour le lecteur parce que entre 2, 5 étoiles, comme on disait, le commentaire peut être très différent parce qu'il n'y a pas de vraiment 5 étoiles notes. En fait, on a une granularité dans la notation qui est très complexe.
Et la notation dynamique aussi, qui fait que pendant un temps, peut-être que c'était un 3 étoiles qui avait une critique plutôt positive, et peut-être avec le temps, il passe à 2, mais il a toujours cette critique à l'écrit positive.
Exactement.
Ce qui est difficile pour les gens de se figurer.
Ouais, complètement. Le système de notation, il est compliqué sur les NUM encore. Je le conçois parfaitement. C'est-à-dire que même quand on doit l'expliquer à des constructeurs ou à des lecteurs, oui, attention, la notation, elle bouge. Donc là, en fait, on revoit un petit peu notre copie. Et je pense que c'est le principal chantier qui va arriver sur le site. Enfin, on n'a pas le choix. Parce que je ne voudrais pas qu'on se soit confus. Donc, on va arriver avec beaucoup plus de précision dans la notation pour que les lecteurs soient beaucoup plus au clair sur ce qu'on dit de ce produit. Parce que finalement, c'est plus une note sur 3.
Ouais.
Sachant que le 1, on le donne à des produits qui sont défectueux. Ça arrive quand même très rarement. Le 2 a un défaut rédhibitoire. Bah là, encore une fois, c'est pas tous les produits. Donc finalement, on a une note sur 3, ce qui n'est pas forcément le plus évident. Donc, on arrive en début d'année, enfin premier trimestre, je pense qu'on arrivera avec une nouvelle notation. C'est ça ma boussole.
Et croyez-moi que c'est un vrai chantier pour tous ceux qui s'en occupent actuellement.
Ouais, c'est des prises de tête parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments à considérer. La deuxième partie, c'est que je voudrais qu'on mette beaucoup plus en avant le rapport qualité-prix. C'est-à-dire à l'heure où c'est difficile pour les gens de faire ses courses, enfin, voilà, de partir en vacances, où voilà, l'inflation nous a tous bouffé la vie, je pense qu'il faut qu'on explique aux gens comment bien s'équiper. Ça ne veut pas dire forcément dépenser des milliers d'essences. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on aime le plus au NUM, en tout cas, moi, à titre vraiment personnel, c'est le rapport qualité-prix. Je ne vais pas te conseiller la meilleure machine à café qui coûte 1 500 €. Je pourrais te la conseiller. Évidemment, il y a beaucoup de chances qu'elle soit parfaite. Mais je vais vouloir te trouver, moi, je vais vouloir te conseiller le meilleur produit au meilleur prix. Parce que c'est dur, en fait.
Et puis, in fine, on est nous aussi des acheteurs et des utilisateurs potentiels, donc on veut la même chose.
Exactement. Ouais, je veux faire le meilleur conseil d'achat possible. Mmh. Ça ne passe pas par les produits d'excellence, ça passe par le bon rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, sur le site, ils ne sont pas forcément bien mis en avant. Donc, je voudrais qu'on soit un peu plus précis dans notre sélection, qu'on aille vraiment plus chercher les produits qui peuvent obtenir ce label de meilleur rapport qualité-prix. Il va falloir aussi qu'on invite les marques à nous prêter ces produits parce que les marques, elles ont forcément envie de nous prêter leur flagship qui coûte plusieurs milliers d'euros.
Ça traîne un peu plus la patte quand c'est
complètement
un produit accessible.
Parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit pas 5 étoiles et du coup, ils sont plus frileux. Donc voilà, ça, je voudrais qu'on le mette en avant. Et bien évidemment, j'en reparlais à l'incarnation de cette rédaction que j'adore et qui m'a porté toutes ces années. Et je voudrais qu'en fait, toute cette harmonie-là qu'on a au plateau dans l'open space, ça transpire en fait sur les numériques, à la fois sur le site et aussi en vidéo. Et dans le podcast.
S'il y avait bien un garant de cet esprit des numériques, c'était Renaud, la brasserie, notre rédacteur en chef jusqu'à encore quelques semaines, que j'avais eu la chance d'avoir dans le podcast cet été. Il nous avait déjà parlé un petit peu de comment il voyait la rédaction, comment il voyait son métier. C'est grâce à lui et à toi si je suis là en plus aujourd'hui, donc je vous en suis très reconnaissant. S'il y a une leçon très utile que Renaud t'a apprise.
Oh là là, Renaud.
Ouais.
Renaud, en fait, parfois, il me manque parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très impulsif. Je peux péter des câbles. Enfin, ça m'embête de l'affirmer au micro, mais parfois j'ai l'impression de pas avoir de filtre. Et Renaud me mettait quand il sentait que je commençais à prendre un sujet et que je m'emportais, il me canalisait en fait, et il mettait l'eau dont j'ai encore besoin aujourd'hui. Donc en fait, là, si j'ai un coup de panique, là, je vais penser très fort à Renaud. Et je vais me dire comment Renaud aurait... Voilà, parce que c'est quelqu'un de très calme, qui sait bien gérer tous les coups de pression ou les coups de chaud ou éteindre les incendies. Voilà.
Toujours dans la bienveillance.
Toujours dans la bienveillance, ouais. Donc, quand j'ai chaud, je pense à Renaud.
Cette phrase sera justement sortie du contexte. Ce sera le titre de cette interview. Quand j'ai chaud, je pense à Renaud. C'est très bizarre.
C'est mon deuxième père.
Dans ce rôle de rédactrice en chef, si tu as un arbitrage concret, tu dois faire comment et est-ce que tu le fais souvent? Je veux dire, par exemple, entre qualité, vitesse d'exécution, les actus, les tests, il faut parfois faire des choix.
Ouais.
Est-ce que c'est compliqué et comment tu arbitres?
Là, moi, rédactrice en chef, ma priorité, et j'espère que ce sera celle des NUM pendant encore très longtemps, c'est le test. La priorité, c'est le test parce qu'on est un site de tests, de comparatifs, de conseils avant achat. Évidemment, on a pris un gros tournant sur l'actu. On ne pouvait pas l'éviter à l'heure de Google Discover, Google News et consorts, et des réseaux sociaux aussi. Donc oui, on est aussi un site d'actualité. Mais la priorité restera pour moi toujours le test. Parce que c'est ce qui nous porte, c'est ce qui fait notre ADN et c'est ce que je souhaite conserver. Donc la priorité étant le test. On prendra tout le temps qu'il faudra pour rendre le meilleur test possible.
Maintenant, je veux parler à Marie, l'utilisatrice, Marie, la potentielle acheteuse.
Ouais.
Oh bah, qui a souvent d'ailleurs la fièvre acheteuse, j'ai envie de dire, il faut la connaître. Ton produit top cette année en 2025. Pas forcément un produit que tu as testé, mais le produit vraiment que tu as préféré cette année.
Ok. Mais du coup, je vais prêcher pour ma paroisse.
Vas-y.
Je vais vous le dire, les gars, mon produit préféré, et c'est parce que j'ai passé la Saint-Valentin avec ce produit, ma vie est d'une tristesse. C'est le Thermomix TM7 qui a été annoncé en début d'année. Et en fait, moi, je suis une piètre cuisinière, d'accord ? Donc, avoir un produit comme ça. En fait, le Thermomix, pour moi, est arrivé dans ma vie et m'a complètement changé. Ça m'a donné confiance. C'est horrible ce que
je
raconte.
Tu te rends compte que tout le champ lexical que tu emploies là, c'est celui d'une relation amoureuse.
Ben oui, exactement.
C'est incroyable.
Ben oui, Julien. Parce qu'en fait, je n'ai pas confiance en moi, dans mes capacités à cuisiner, à préparer un plat. Seulement, j'ai un gamin, j'ai une famille, j'ai envie de faire plaisir. Je ne sais rien faire en fait. Avec le Thermomix, ça déplaît à beaucoup de gens parce que tout le monde a la même recette in fine. Mais c'est pas grave en fait, parce que moi, je pars de rien et j'arrive à faire de grandes choses, ok ? Et donc quand Vorwerk sort son Thermomix TM7, je me disais, je vois bien ce qu'il pourrait avoir de plus par rapport au TM6, qui était pour moi une version déjà très aboutie. Heureusement que je suis pas en R&D chez Vorwerk, hein, parce que là franchement, je ne voyais pas d'axe d'amélioration. Et pourtant, ils ont réussi à améliorer encore plus l'expérience utilisateur par petites touches. Et du coup, j'étais déjà transcendée, mais là, clairement, j'ai été conquise d'autant plus, quoi. Donc, j'ai un peu troqué mon ancien Thermomix pour un petit jeune, quoi, comme on dit. Et donc ça, oui, mais parce que c'est mon produit chouchou, parce que tu me demandes à moi, Marie Solfi, en tant qu'utilisatrice. Mm-hmm. Donc, cuisine, quoi.
Et à l'inverse, ton flop absolu?
Ouais, et ben là, on va parler côté beauté. Ouais. C'est les masques LED.
Le problème, c'est quoi ? C'est que ça ne marche pas ou tu n'en vois pas l'utilité ?
En fait, ce qu'il y a, c'est que le masque LED, je ne vois pas. Je me suis dit, mais en fait, ok, je me tape des sessions 3 fois ou 4 fois par semaine pendant 20 minutes, un truc dans la tronche. C'est un temps que je prends pour moi, mais c'est quand même hyper contraignant quand tu es dans une routine du soir où tu vois, tu dois gérer toute ta vie.
Après, tu peux laisser le Vorwerk faire à bouffer pendant que tu te fais une session.
Ouais, non, parce que quand Vorwerk, il fait la popote, moi, je m'occupe des devoirs du petit ou c'est la ça. Douche. Enfin, tu vois, je suis déjà sur le lendemain, quoi. Je prépare déjà le lendemain. Et donc, ça invite à se poser. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ce que je dis, c'est que c'est très frustrant. Ça répond à un rituel qui est très complexe quand même, qui est très chronophage. Mmh. Et surtout, je ne vais pas dire ma peau est mieux avant ou après, parce qu'en fait, ça retarde le vieillissement de la peau. Donc en fait, mes rides étant déjà là, elles seront toujours là. C'est juste que les nouvelles rides vont apparaître un peu plus longuement. Donc en fait, je n'ai pas de avant-après possible à mettre en avant. Parce qu'en fait, ça ne supprime pas les rides, ça retarde le vieillissement de la peau. Donc là, en fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec des masques LED. Et en fait, voilà, j'en suis revenue. Et pour le prix que ça coûte, voilà, c'est important de prendre ça en compte. Voilà, donc petite déception, on va dire.
Ok. Ton pari pour 2026, il y a une tendance que tu sens venir et sur laquelle on va être à fond, peut-être, l'année prochaine, qui arrive bientôt?
Alors, c'est une tendance que j'observe déjà depuis quelques années. et je pense qu'il se développe énormément, c'est la multiplicité, la polyvalence des produits. Je m'explique, surtout en maison, aujourd'hui, on va avoir, je vais reprendre l'exemple, le robot cuiseur. Il cuit, il mixe, il tranche, il râpe, il fait plein de choses, en fait, ton robot cuiseur. Maintenant, on a aussi des aspirateurs robots qui lavent, ok ? T'as aussi l'essor des appareils, des balais laveurs qui aspirent, qui lavent, qui nettoient à la vapeur, qui sèchent le sol. Voilà,
j'ai les combos, en fait.
Les combos. En fait, c'est ça, les gens, je pense, vont vouloir... ne pas multiplier les appareils et forcément les coûts à la maison, mais peut-être rassembler dans un seul et même appareil de la polyvalence pour répondre à plusieurs tâches. En tout cas, en maison, c'est très marqué. J'ai même vu au CES de l'année dernière ou même à l'IFA, des aspirateurs robots qui purifient ton air ou alors des aspirateurs robots qui déshumidifient ton air. Voilà. Et, ou qui font caméra de surveillance aussi. Tu vois, c'est parce que c'est une petite fonctionnalité. Ils se baladent dans la maison, ils regardent si tout le monde se comporte bien, même tes animaux, ton chien, toujours chien. Et on l'a vu, bon, c'était vraiment un produit un petit peu chelou et clairement, la promesse là n'était pas forcément hyper convaincante. Mais quand Dyson sort un casque audio avec une fonction de purificateur d'air, tu te dis, bon, est-ce qu'on irait... C'était un coup d'essai, clairement. Oui. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être une tendance qui répond à des contraintes d'encombrement et de coût. Voilà, la polyvalence des appareils.
Et pour ne pas en avoir testé, puisque ce n'est pas forcément ma partie, est-ce qu'ils arrivent à être à 100% dans chacune de leurs tâches ou c'est le risque d'avoir des produits qui ne sont qu'à 50%?
Au démarrage, c'est souvent assez chaotique, c'est-à-dire que les aspirateurs robots, quand ils ont été lancés avec une fonction de lavage, c'était dramatique. On ne pouvait pas parler de système de lavage. D'ailleurs, on ne le testait pas. On se dit, c'est trop superficiel pour qu'on puisse en sortir quelque chose de positif. Du coup, l'industrie a compris. Ils ont redoublé d'efforts. Maintenant, t'as plein de systèmes de lavage qui patinent le sol, qui le brossent efficacement. Et du coup, ouais, t'arrives à avoir des solutions pertinentes. Mais un robot cuiseur, il cuit hyper bien, hyper précisément et il va mixer hyper finement. Ça s'améliore au fil du temps.
Et c'est pas trop compliqué à insérer ce genre de produit dans des comparatifs?
Complètement.
C'est totalement hybride.
C'est complètement hybride, donc tu sais pas trop où les mettre. Et ça, c'est le problème un peu technique de notre site, c'est que c'est très figé. En fait, tu peux pas mettre un produit dans deux comparatifs. Donc, à chaque fois, il faut se poser la bonne question et savoir, bon, un, comment la marque market son produit. Et surtout, c'est comme ça qu'on tranche, savoir comment un distributeur, Fnac, Darty, Boulanger, le répertorie. Ouais. Et on va se baser sur eux, tout simplement.
Bon, on fait des recommandations, on fait des conseils d'achat. Moi, je voudrais une recommandation qui n'a rien à voir avec la tech. S'il y a un contenu qui, toi, en ce moment, t'inspire, en dehors de notre podcast perso, s'il y a un podcast, une chaîne, une newsletter, un site, un livre, okay, un film que tu as envie de nous conseiller là pour cette fin d'année.
Alors, en ce moment, je suis fan de toutes les vidéos que fait Nota Bene. Des podcasts, des contenus d'histoire. Parce que je me sens très larguée. Mes cours d'histoire, je les vois loin. Je ne sais même pas à quel point je les écoutais à l'époque. Du coup, je me sens très larguée en histoire. Du coup, en ce moment, je ne bouffe que de ça.
Puis on n'a pas tous eu droit à des profs qui étaient de vrais passeurs.
Oui. Après, je pense que j'étais, tu sais, une sale gosse qui avait d'autres préoccupations que l'école. C'est plus ludique. Il fait ça très bien. Je trouve ça bien illustré, bien imagé. Donc, en ce moment, c'est tout ce que je bouffe. C'est Nota Bene. Même quand je suis au sport, j'écoute ça. Mais vraiment, parce que j'ai envie, là, à l'aube de mes 40 ans, j'ai envie de, je sais pas, de pas me sentir larguée quand je parle d'histoire. Je trouve que c'est passionnant et je suis passée à côté de trop de choses. Donc, je rattrape tout le retard. Donc, voilà, là, c'est ma reco du moment.
Et ça peut aussi être intéressant de comprendre le monde d'aujourd'hui en sachant le monde d'avant. Surtout quand on sait que dans quelques jours, il y aura des débats et des... repas de famille qui risquent d'être un peu enflammés.
Qui vont être tout à fait animés, exactement.
Ça va nourrir,
bien sûr. En fait, ça te porte, ça te donne un peu de solidité, de légitimité quand tu t'exprimes sur d'autres sujets. La tech, c'est bon, j'aime ça. Mais j'ai eu l'impression qu'il n'y a eu que ça à un moment aussi dans ma vie.
C'est important de sortir du quotidien.
C'est important de sortir du quotidien et de revenir en fait peut-être aux fondamentaux. Et donc, on m'a conseillé Nota Bene et je conseille à mon tour parce que... je me sens plus solide, en fait.
On peut aussi conseiller d'aller sur le site des numériques.
Bien sûr.
D'écouter le podcast des numériques.
Évidemment, Julien.
Cool, ça fera toujours
plaisir. Que tu mènes d'une main de maître. Et on te remercie parce qu'on sait que c'est du boulot derrière.
C'est clair. Ouais. Est-ce que ça s'est bien passé?
Ce podcast?
Ouais.
Super. Bon. J'ai l'impression que c'était comme à la maison.
On se revoit bientôt?
Avec plaisir.
On parlera peut-être de sujets que je maîtrise un peu moins.
Dis-le-moi.
je sais pas, des sujets maison, santé, des sujets féminins que je maîtrise pas forcément.
Avec grand plaisir.
J'aimerais qu'on se fasse ça pour 2026. Je me sentirais plus légitime d'être accompagné d'une professionnelle.
Ça me ferait très plaisir. Merci pour l'invitation.
Merci à toi, Marie. La semaine prochaine, on fait le point avec Thibaut sur les tops et les flops ciné-séries de l'année. Bonne fête à tous.
Retrouvez l'émission ainsi que tous les podcasts des Numériques sur notre site lesnumériques.com et vos plateformes de streaming préférées.